Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Molière est parmi les grands hommes, celui dans la France pourrait le moins aisément se passer.
Sacha Guitry.
Molière est nécessaire. Il est une preuve permanente. Et l'on a constamment l'occasion de clouer le bec à des gens qui voient faux en leur disant « Eh bien, et Molière ?» Quand on parle d'un homme que l'on admire et que l'on aime sans réserve, quand on n'a plus de mots qui semblent assez forts ni qui soient assez tendres,
ça peut pas faire de mal.
Quand les gestes s'en mêlent et qu'on lève les yeux au ciel, il se trouve toujours quelqu'un de pondéré pour briser votre élan et pour insinuer « ce n'est tout de même pas le bon Dieu ». Eh bien, quand nous parlons, nous autres, de Molière, superlativement, si quelqu'un s'avisait de nous dire « ce n'est tout de même pas le bon Dieu », nous répondrions « si ».
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, ou presque seul, l'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière, et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue, enlacée et roulée en feston, tourne comme un rébus autour d'un mirliton. J'écoutais cependant cette simple harmonie et comme le bon sens fait parler le génie, j'admirais quel amour pour l'âpre vérité eut cet homme si fier en sa naïveté. Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde, quelle mal guettée si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Et je me demandais, est-ce assez d'admirer? Est-ce assez de venir un soir par aventure, d'entendre au fond de l'âme un cri de la nature, d'essuyer une larme et de partir ainsi, quoi qu'on fasse d'ailleurs sans en prendre souci? Ô notre maître à tous, si ta tombe est fermée, laisse-moi dans ta cendre un instant ranimée, trouver une étincelle et je vais t'imiter. J'en aurais fait assez si je puis le tenter. Apprends-moi de quel ton, dans ta bouche hardie, parlait la vérité, ta seule passion. Et pour me faire entendre à défaut du génie, j'en aurais le courage et l'indignation. Deux siècles après Molière, cet exercice d'admiration en alexandrin est signé par un autre grand homme de théâtre, Alfred de Musset. Selon lui, il ne s'agit pas seulement d'admirer Molière, il faut l'imiter. Imiter son combat pour la vérité, son courage à affronter l'opinion commune, son indignation face aux vices et à l'hypocrisie de son époque.
Germain Clairin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart, Madeleine Béjart, Catherine Deshurlis et Geneviève Béjart. Lesquels ont fait et accordé volontairement entre eux les articles qui en suivent, sous lesquels ils s'unissent et se lient ensemble pour l'exercice de la comédie afin de conservation de leur troupe sous le nom de l'illustre théâtre.
Vous l'aurez reconnu, vous venez d'entendre un extrait du célèbre et magnifique film Molière d'Ariane Mnouchkine. Aujourd'hui, à l'occasion du Salon du Livre de Radio France, cette émission en public rend hommage au talent subversif de Molière. Mais qui est-il vraiment ? Artiste adulé des salons mondains et soutenu par Louis XIV, il s'attire pourtant les foudres d'une partie de l'aristocratie et des élites religieuses en critiquant la société patriarcale de son époque. Ensemble, partons à la découverte d'un artiste finalement méconnu, dont nous avons tous des souvenirs de cours de collège et de matinées classiques. Ce soir, Fidon des comédies, ballets et autres marquis en rubané, place à un Molière audacieux et impertinent. Nous aurons pour guide l'un des plus célèbres biographes de Molière, l'écrivain russe Mikhaïl Bulgakov, qui écrit en 1933 le fascinant roman de Monsieur de Molière. En plein stalinisme, l'écrivain se voit contraint de déjouer la censure. Pour traiter du rapport entre l'artiste et le pouvoir, il fait un détour par le XVIIe siècle et prend le masque de Molière, l'auteur officiel qui a su se jouer du pouvoir. Jean-Baptiste Poquelin est baptisé le 15 janvier 1622. Son père, Jean, est drapier à la cour. Sa mère, Marie, femme cultivée, meurt l'année de ses 10 ans. C'est son grand-père maternel qui lui fait découvrir le théâtre, les grands tragédiens de l'époque bien sûr, mais aussi l'ambiance polissonne des foires. À 20 ans, notre jeune homme déclare qu'il ne sera pas tapissier comme son père, mais acteur. Et il fonde, avec une dizaine d'amis comédiens, l'illustre théâtre. La troupe compte une grande actrice, Madeleine Béjart, qui devient la muse et aussi la maîtresse de notre dramaturge. Mais les débuts sont difficiles, les comédiens jouent devant des salles vides et Molière est même emprisonné quelques jours pour dette. La troupe décide alors de quitter Paris et part jouer pour l'aristocratie de province. Molière commence à écrire. En 1658, coup de théâtre. Après plus de 10 années vagabondes, Molière et ses camarades sont de retour à Paris. Ils obtiennent la protection de Monsieur Frère du Roi, qui leur assure une pension permanente. Une nouvelle ère s'ouvre bientôt, celle du succès. C'est avec les précieuses ridicules que Molière acquiert un statut inédit pour l'époque, celui d'amuseur public. Pourtant, il détonne par sa modernité, parodiant l'esprit galant du XVIIe siècle. Les précieuses, qui tiennent salon en grande pompe, en prennent pour leur grade. Grâce à Bulgakov, glissons-nous parmi les spectateurs le soir de la première des précieuses ridicules, le 18 novembre 1659. Dès les premiers mots de la comédie, le parterre tendit des oreilles charmées. À la scène 5, les dames écarquillèrent les yeux dans leur loge. La scène 8 fit sursauter les marquis qui se trouvaient, selon la coutume de l'époque, assis sur les côtés de la scène, tandis que le parterre se mettait à rire aux éclats, d'un rire qui ne s'éteignit pas avant la fin de la pièce. Sur la scène se jouait une farce d'une insolence débridée qui n'avait rien d'innocent. C'était la farce des mœurs et coutumes du Paris d'alors, et ceux qui vivaient ces mœurs et créaient ces coutumes se trouvaient là, dans les loges et sur la scène. Le parterre riait aux éclats et pouvait les désigner du doigt. Il avait reconnu les grands seigneurs des salons que Molière couvrait ainsi publiquement de ridicule. Des loges montaient des murmures alarmés. Le bruit courait dans le public que Cathos, l'un des personnages des précieuses ridicules, était sans aucun doute Catherine de Rambouillet. Quand Molière jeta à travers l'ouverture de son masque un regard en direction du public, il aperçut, installé au premier rang de sa loge, devant toute sa suite, l'estimable Madame de Rambouillet. La digne vieille, comme tout le monde avait pu le remarquer, était devenue verte de rage. Elle avait parfaitement compris la pièce, et elle n'était pas la seule. Du parterre, un vieil homme cria au milieu de l'action « Courage, Molière, voilà la bonne comédie !» La réaction des censeurs ne se fait pas attendre. Dès le lendemain de la première, la pièce est interdite à la représentation. Molière s'active. Il sollicite l'appui du roi, revoit sa copie et se remet à l'écriture. 3 ans après les précieuses ridicules, l'auteur s'attaque à un enjeu bien plus conséquent. Le droit des femmes au libre choix amoureux. Dans les salons, on devise de l'amour, du mariage et de l'émancipation des femmes. C'est de cette question contemporaine que s'empare Molière dans sa nouvelle pièce « L'école des femmes ». Un vieil homme, Arnolphe, maintient dans l'ignorance une jeune fille, Agnès, dont il veut faire sa femme. Il espère ainsi garantir sa fidélité. Jusqu'au jour, bien sûr, où Agnès fait la rencontre d'un plaisant jeune homme. Je vous propose de découvrir la scène 3 de l'acte 2. Agnès relate avec innocence cette rencontre au vieux Barbon. Arnolphe. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Agnès. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence.
et lui d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ses tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenu, ne voulant point céder à recevoir l'ennui qu'il me put estimer moins civil que lui. Qu'avez-vous ? Vous grondez, ce me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit ? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous ? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal, outre tous ses discours, toutes ses gentilles. Ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ? Or, tant il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ? Ouf. Et il m'a, quoi, pris, le plaît-il ? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non, si fait, mon Dieu, non. Jurez donc votre foi, ma foi, soit. Il m'a pris... Vous serez en colère. Non, si, non, 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 diantre, que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Il... Je souffre en damné. Il m'a pris le... ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.
J'étais ce soir à votre pièce, monsieur. Je me suis fort ennuyé. Aussi puis-je vous suggérer d'en changer le titre. L'école des putains serait plus saillant. Vous ne pensez pas ?
Vous riez de tout, le monde s'écroule. L'autorité est bafouée. On moque la liturgie. Comme on moque l'église.
Mais tu seras cocu, toi aussi, nègre !
Encore en faveur, mais méfie-toi. Le roi, oublie vite.
Toujours un extrait du merveilleux Molière d'Ariane Mouchkine. Dès la création de la pièce, le 26 décembre 1662, une querelle s'enclenche. Tandis que le public s'enthousiasme, beaucoup ne pardonnent pas les sous-entendus obscènes de cette fameuse scène du ruban. Pendant 2 ans, intellectuels et dévots se déchaînent contre Molière, qui attaque ouvertement l'institution du mariage. Quelques mois plus tard, Molière répond habilement à ses adversaires en les mettant en scène. Transformant ses ennemis en personnages de comédie, il surenchérit et retourne la situation à son avantage. Là encore, en avance sur son temps, l'artiste invente une manière de faire le buzz. Découvrons donc cette nouvelle pièce, La critique de l'école des femmes, créée en 1663. Nous sommes au début de la pièce, à la scène 3. Deux cousines, Uranie et Élise, reçoivent de mauvaise grâce la visite de Climène, une précieuse, qui a son avis sur tout. Toutes les trois débattent d'une pièce qu'elles ont vue récemment, L'école des femmes. Cette œuvre marque aussi les débuts d'une jeune comédienne qui a grandi dans la troupe de Molière, une certaine Armande, fille de Madeleine Béjart. Climène. Oh, vous me faites pitié de parler ainsi. Croyez-moi, ma chère, corrigez de bonne foi votre jugement. Et pour votre honneur, n'allez point dire par le monde que cette comédie vous ait plu. Uranie. Moi, je ne sais pas ce que vous y avez trouvé qui blesse la pudeur. Hélas, tout ! Et je mets en fait qu'une honnête femme ne la saurait voir sans confusion, tant j'y ai découvert d'ordures et de saletés. Il faut donc que pour les ordures, vous ayez des lumières que les autres n'ont pas, car pour moi, je n'y en ai point vu. C'est que vous ne voulez pas y en avoir vu, assurément, car enfin, toutes ces ordures, Dieu merci, y sont à visage découvert. Elles n'ont pas la moindre enveloppe qui les couvre, et les yeux les plus hardis sont effrayés de leur nudité. Mais encore, s'il vous plaît, marquez-moi une de ces ordures que vous dites. Hélas,
Est-il nécessaire de vous les marquer ? Oui. Je vous demande seulement un endroit qui vous ait fort choqué. En faut-il d'autre que la scène de cette Agnès lorsqu'elle dit ce que l'on lui a pris ? Eh bien, que trouvez-vous là de sale ? Oh, de grâce. Fi ! Mais encore, je n'ai rien à vous dire. Pour moi, je n'y entends point de mal. Enfin, il faut être aveugle dans cette pièce et ne pas faire semblant d'y voir les choses. Il ne faut pas y vouloir voir ce qui n'y est pas. Quoi ? La pudeur n'est pas visiblement blessée par ce que dit Agnès dans l'endroit dont nous parlons ? Non, vraiment. Elle ne dit pas un mot qui, de soi, ne soit fort honnête. Et si vous voulez entendre dessous quelque autre chose, c'est vous qui faites l'ordure, et non pas elle. Parce qu'elle parle seulement d'un ruban qu'on lui a pris. Oh ! Ruban tant qu'il vous plaira, mais ce « le » où elle s'arrête n'est pas mis pour des prunes. Il vient sur ce « le » d'étranges pensées. Ce « le » scandalise furieusement. Et quoi que vous puissiez dire, vous ne sauriez défendre l'insolence de ce « le ». Élise, il est vrai, ma cousine. Je suis pour madame contre ce « le ». Ce « le » est insolent au dernier point. Et vous avez tort de défendre ce « le ». Il a une obscénité qui n'est pas supportable. Comment dites-vous ce mot-là, madame ?
Obscénité, madame.
Ah, mon Dieu ! Obscénité. Je ne sais ce que ce mot veut dire, mais je le trouve le plus joli du monde. Retrouvons l'écrivain Bulgakov. Dans sa biographie romancée de Monsieur de Molière, il s'imagine à nouveau témoin des premières représentations de l'école des femmes. Il recueille les réactions pour le moins éclectiques du public. Une fois de plus, Molière a l'art de faire parler de lui. Toutes les manifestations auxquelles avait donné lieu la sortie des précédentes pièces de Molière furent totalement éclipsées par celles qui suivirent la première de l'école des femmes. Tout d'abord, cette première débuta par un scandale. Un certain Plapisson, vieil habitué des salons parisiens, fut atteint jusqu'au fond de son être par le contenu de la pièce. Assis sur la scène, il tournait à chaque pointe ou jeu de scène un visage empourpré par la rage vers le parterre et criait « Ris donc, parterre, ris !» Et il montrait en même temps le poing au spectateur. Naturellement, son intervention porta à des sommets les rires du parterre. La pièce plut beaucoup au public, et à la deuxième représentation, ainsi qu'aux suivantes, l'affluence fut telle que les recettes atteignirent le chiffre record de 1500 livres par soirée. Puis il se trouva à Paris des naïfs qui allèrent raconter partout avec indignation que c'était eux que Molière avait représentés sous les traits d'Arnolphe, le héros de la comédie. Le Palais Royal aurait dû les payer pour la part qu'ils prirent à l'accroissement des recettes.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Madame la marquise a dit, et c'est une femme fort sage qui reçoit tous les vendredis tout le gratin du voisinage. Madame la marquise a dit, et je précise en la présence d'un général de ses amis qui a servi dans la tendance. Madame la marquise a dit, mais ne s'adressant à personne, personne ne l'aurait compris. Pourtant la surprise était bonne. Madame la marquise a dit, une voix tout à fait tranquille, en fermant les yeux à demi, un mot que je vous donne en mille. Madame la marquise a dit, et juste à la seconde étoile où monsieur l'abbé fut sorti,
à quoi bon choquer le chanoine.
Madame la marquise a dit
à tous ceux qui la croyaient prude, ce qui n'est entre nous soit dit, pas du tout dans ses habitudes. Madame la marquise a dit d'une façon tout à fait comique, tout le monde en fut si surpris que nul ne trouva la réplique.
Madame la marquise a dit
et j'en ris encore quand j'y pense, un mot sur monsieur le marquis qui fit suffoquer l'assistance, mais que l'on ne veut pas redire.
Sur Molière, ben, ce qui me fascine chez lui,
Michel Bouquet,
c'est le don de lui-même qu'il donne à ses créations. Ce n'est jamais quelque chose d'intellectuel, ce n'est jamais un jugement qu'il porte sur les choses. Non, tout ce qu'il dit, il l'éprouve dans sa chair. Il a écrit en arrachant lui-même le masque. Et en fait, il arrache le masque du spectateur qui regarde le pantin qui se montre à nu.
C'était avant Michel Bouquet, les frères Jacques. La même année de l'École des femmes, Molière provoque un autre scandale, non plus sur scène, mais dans sa vie privée. À l'âge de 40 ans, le dramaturge épouse Armande Béjart, la fille de Madeleine, son ancienne maîtresse. L'affaire fait grand bruit, et on croit reconnaître Molière lui-même sous les traits d'Arnolphe, le vieux barbon jaloux amoureux d'une jeune fille qui pourrait être sa propre fille. Retrouvons l'écrivain Bulgakov dans le rôle de chroniqueur de la vie mondaine. Dans l'extrait suivant, il se fait le témoin de ce mariage qui choque l'opinion. Nous sommes le 20 février 1662 à Paris, en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Devant l'hôtel se tenait un peu voûté, secoué par une toux intermittente, le directeur de la troupe du Palais Royal, Jean-Baptiste Molière. À côté de lui, une jeune fille d'une vingtaine d'années, assez laide, avec sa bouche trop grande et ses petits yeux, mais très attirante et coquette. La jeune fille était habillée à la dernière mode et se tenait droite, la tête fièrement rejetée en arrière. Les orgues tonitruaient au-dessus de leur tête, mais le fiancé, tout à la passion qui le dévorait, n'entendait pas plus les cataractes sonores de l'instrument que le latin familier. Un peu en arrière des futurs époux se trouvaient les acteurs du Palais Royal et un groupe de parents au milieu duquel on pouvait reconnaître vieux et blanchi le tapissier du roi Jean Poquelin, la mère des Béjart, Madame Hervé Béjart, et Madeleine, un air étrange sur son visage comme pétrifié. Molière, frappé d'une passion dévorante, a enfin atteint son but. Mademoiselle Menoux, alias Armande Béjart, se trouve maintenant à son côté devant l'hôtel. La fiancée a 20 ans ou à peu près. Le voilà donc, mon héros, devant l'hôtel, à côté d'une jeune fille deux fois plus jeune que lui, et dont on dit qu'elle est sa propre fille. L'orgue qui mugit lugubrement au-dessus de leur tête prédit pour ce mariage toutes les calamités possibles et toutes ses prédictions se réaliseront. Après les noces, le directeur du Palais Royal abandonna son appartement de la rue Saint-Thomas-du-Louvre pour emménager avec sa jeune épouse rue de Richelieu. Là, ses infortunes ne tardèrent pas à commencer. Il apparut que les deux époux ne s'accordaient nullement. Le mari malade et vieillissant aimait toujours sa femme avec la même passion, mais celle-ci ne l'aimait pas, et leur vie devint très vite un enfer. Molière continue à défier la morale bien-pensante de son temps, et c'est en mai 1664, avec le Tartuffe, que s'engage la cabale la plus violente de sa carrière.
Sans le secours des valeurs sacrées, il n'est pas de règne qui tienne, Louis. Vous êtes le fils aîné de l'Église. Je ne veux pas que vous en soyez le fils honteux.
Molière, madame, est un bon serviteur. Et sa pièce n'était qu'une farce. Qui en a fait rire plus d'un. Et qui ne m'a pas déplu.
entre le triste et un valet bouffon. Vous choisissez le bouffon.
Sire, songez aux conséquences. L'Église unanime a condamné cette pièce.
C'était un extrait du Roi danse de Gérard Corbiot avec Benoît Magimel dans le rôle de Louis XIV. Après la prude dans l'école des femmes, Molière s'attaque au personnage qu'il considère comme son équivalent masculin, le dévot. Il s'inscrit à présent dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le débat d'idées, en mettant un sujet sensible au cœur de sa nouvelle comédie, la place de la religion dans la société. Découvrons sans plus attendre ce personnage, Tartuffe, le dévot hypocrite. Ébloui par sa dévotion, Orgon, le maître de maison, l'accueille chez lui. Mais le pieux personnage ne tarde pas à révéler sa vraie nature. Comme tout homme, il est tenté par le désir. Retrouvons-le en compagnie de la femme d'Orgon, Elmire, qu'il tente de séduire. Extrait de la scène 5 de l'acte 3. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne résonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine, de vos regards divins l'ineffable douceur, força la résistance où s'obstinait mon cœur, elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit mille fois, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler et jusqu'à mon néant daignent se ravaler, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nulle autre pareille. Votre honneur avec moi ne court point de hasard et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles. De leur progrès sans cesse on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer et leur langue indiscrète en qui l'on se confie déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret avec qui, pour toujours, on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toute chose à la personne aimée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Elmire, je vous écoute dire et votre rhétorique en termes assez forts, à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité. Que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. Si ces célèbres répliques de Tartuffe ont fait couler beaucoup d'encre, le faux dévot n'en paraît pas moins sincère et sensible. Molière ne défendrait-il pas tout simplement la condition humaine dans toute sa complexité? Hélas, après une première et unique représentation publique du Tartuffe à Versailles, la pièce est interdite. Il faudra attendre plus de 4 ans pour qu'elle soit enfin autorisée. Mais pour l'heure, écoutons l'attaque la plus virulente dirigée contre Molière. Est-il homme ou diable? Voici cette missive qui a beaucoup circulé à l'époque, adressée au roi Louis XIV par l'abbé Roulet. On sait qu'elle a profondément touché Molière. Un homme, ou plutôt un démon vêtu de chair et habillé en homme, et le plus signalé impie et libertin qui fut jamais dans les siècles passés, a eu assez d'impiété et d'abomination
pour faire sortir de son esprit diabolique une pièce à la dérision de toute l'Église et au mépris du caractère le plus sacré et de la fonction la plus divine et au mépris de ce qu'il y a de plus saint dans l'Église, à dessein d'en rendre l'usage ridicule, odieux. Il mériterait par cet attentat sacrilège et impie un dernier supplice exemplaire et public et le feu même, avant-coureur de celui de l'enfer, pour expier un crime si grief de lèse-majesté divine.
Molière était probablement le plus grand farceur, le comédien le plus drôle de son temps. C'était une espèce de Chaplin de son temps.
Jacques Lassalle.
Ce comédien, dont la moindre farce est d'abord une formidable occasion de jubilation, ce comédien est un homme extrêmement douloureux. Il a une vision du monde extraordinairement lucide et désenchantée. Et c'est cet étrange mariage-là entre un théâtre qui est fait pour plaire et un théâtre qui est fait pour déranger simultanément et tout à la fois.
C'est ainsi que le Tartuffe est interdit pour des raisons de politique religieuse. La querelle des dévots coïncide en effet exactement à une période de crise dans l'Église catholique, remise en question par les jansénistes et leur doctrine rigoriste. Si sa décision d'interdire le Tartuffe apaise le débat public, le roi Soleil a sans doute aussi quelques secrets d'alcôve à se faire pardonner, lui-même se situant, nous le savons bien, plutôt du côté des plaisirs. Le roi ne continue pas moins de soutenir Molière. En 1665, il adopte officiellement sa troupe, qui porte désormais le nom de troupe du roi au palais royal. Sous le feu de nouvelles attaques, Molière écrit régulièrement au monarque pour solliciter sa protection. Trois lettres connues sous le nom des placées au roi. En 1667, il envoie deux de ses comédiens en mission spéciale porter un courrier en main propre au roi Louis XIV, alors en pleine guerre dans les Flandres. Sire, c'est une chose bien téméraire à moi que de venir importuner un grand monarque au milieu de ses glorieuses conquêtes. Mais dans l'état où je me vois, où trouver, sire, une protection qu'au lieu où je la viens chercher? Et qui puis-je solliciter contre l'autorité de la puissance qui m'accable, que la source de la puissance et de l'autorité, que le juste dispensateur des ordres absolus, que le souverain juge, le maître de toutes choses? Ma comédie, sire, n'a pu jouir ici des bontés de votre majesté. J'ai eu beau mettre en plusieurs endroits des adoucissements et retrancher avec soin tout ce que j'ai jugé capable de fournir l'ombre d'un prétexte aux célèbres originaux du portrait que je voulais faire, tout cela n'a de rien servi. La cabale s'est réveillée aux simples conjectures qu'ils ont pu avoir de la chose, une belle liaison mal à propos. Ma comédie n'a pas plus tôt paru qu'elle s'est vue foudroyée par le coup d'un pouvoir qui doit imposer du respect, et tout ce que j'ai pu faire en cette rencontre pour me sauver moi-même de l'éclat de cette tempête, c'est de dire que votre majesté avait eu la bonté de m'en permettre la représentation. Mais la vérité pure, sire, c'est que tout Paris ne s'est scandalisé que de la défense qu'on en a faite. J'attends avec respect l'arrêt que votre majesté daignera prononcer sur cette matière, mais il est très assuré, sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire de la comédie, si les Tartuffes ont l'avantage, qu'ils prendront droit par là de me persécuter plus que jamais, et voudront trouver à redire aux choses les plus innocentes qui pourront sortir de ma plume. Daigne vos bontés, sire, me donner une protection contre leur rage envenimée, et puissé-je au retour d'une campagne si glorieuse délasser votre majesté des fatigues de ses conquêtes, lui donner d'innocents plaisirs après de si nobles travaux et faire rire le monarque qui fait trembler l'Europe. Vous aurez reconnu, bien sûr, la musique de Lully. En février 1669, le Tartuffe est enfin autorisé et publié. Dans sa préface, un des principaux textes non théâtraux de Molière, celui-ci règle ses comptes avec ses détracteurs. Ce texte fondateur donne la définition de la comédie de mœurs à laquelle il se consacrera par la suite.
Si l'emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois pas par quelle raison il y en aura de privilégiés. L'hypocrite est, dans l'état, d'une conséquence bien plus dangereuse que tous les autres. Et nous avons vu que le théâtre a une grande vertu pour la correction. Rien ne reprend mieux la plupart des hommes que la peinture de leurs défauts. C'est une grande atteinte aux vices que de les exposer à la risée de tout le monde. On souffre aisément des répréhensions, on ne souffre point la raillerie. On veut bien être méchant, mais on ne veut point être ridicule.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Giovanni de Mozart. En pleine affaire Tartuffe, Molière prépare une nouvelle attaque. Cette pièce qu'il écrit en secret reprend un thème qui lui est cher, le désir et la liberté d'aimer. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de Don Juan. C'est sous le titre de Festin de Pierre que Molière donne en 1665 sa nouvelle comédie
qui va provoquer une troisième cabale.
Don Juan attaque tout ce qui fait qu'une société est valable, qu'elle soit injuste ou juste.
Jean Villard.
On ne peut pas vivre entre hommes sans le respect de la parole donnée. Voilà un homme qui épouse une femme, la laisse tomber le lendemain. Voilà un homme qui répond par une insolence terrible à son père. Don Juan n'attaque pas que la religion, il attaque ce qui, entre les hommes, est nécessaire. La loi, le mariage. Il attaque la famille. Sganarelle ne défend pas que la religion, il défend ce dont nous, tous les hommes et toutes les femmes, nous avons besoin pour pouvoir vivre et que ce ne soit pas l'anarchie. Et il y a un monsieur qui dit non. C'est plus que la société qui l'attaque. C'est quelque chose qui relie les hommes entre eux.
Avec ce personnage libertin, athée et séducteur, le dramaturge fait scandale en revendiquant une immoralité absolue qui va jusqu'à défier Dieu. De la part de Molière, est-ce seulement de la provocation ? Ou au contraire une réflexion profonde sur la condition de l'homme enclin au désir. Après Arnolphe et Tartuffe, Don Juan ne ressemblerait-il pas lui aussi à son auteur, libre penseur et amoureux des femmes? À la fin de la pièce, Molière revient au grand sujet qui a provoqué les foudres de ses détracteurs, l'hypocrisie. Retrouvons Don Juan qui, au grand étonnement de son fidèle valet Sganarelle, commet le pire péché, feindre la conversion et la foi retrouvée. Don Juan s'engage dans un éloge ironique de l'hypocrisie, extrait de la deuxième scène de l'acte 5. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. La profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié. Combien crois-tu que j'en connaisse, qui par ce stratagème ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai sans me remuer prendre mes intérêts à toute la cabale et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué, tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode au vice de son siècle.
Molière fait des comédies, et trop de perfection dans le style nuirait au naturel dans ce genre d'ouvrage.
Il y a des règles pourtant qu'il faut respecter.
Vous me semblez plaisant, Boileau, avec vos règles dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours.
Vous ne pourrez jamais vous entendre. Molière fait des pièces, et vous êtes critique.
C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens, Boileau. Et vous devez être bien heureux de n'avoir jamais fait rire personne.
C'était un extrait de « Si Paris nous était compté » de Sacha Guitry. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons parcouru 10 ans de la carrière de Molière. Au lendemain de cette décennie tumultueuse, Molière semble renoncer au grand débat de société. Il se consacre désormais aux comédies-ballets et autres comédies de mœurs resserrées sur la peinture des caractères de son temps, comme par exemple « Le bourgeois gentilhomme » et « Le malade imaginaire ». En conclusion, évoquons la postérité de Molière. Chaque année, le 15 janvier, date de son baptême, les comédiens du Français montent sur scène pour lui rendre hommage à l'issue de la représentation. En 1959, sur cette même scène de la Comédie française, un grand dramaturge saluait en lui l'homme fraternel. Voici ce portrait signé Jean Anouilh. Je crois que ce dont nous remercions surtout Molière ici ce soir, et chaque fois que nous pensons à lui dans le secret de nos cœurs, c'est d'avoir été un homme. Et il faut croire que c'est une qualité assez rare chez un homme de lettres pour avoir suscité tant d'amour, d'étonnement et de fidélité. Quelqu'un a dit un jour, qui ne pensait pas à lui, « L'homme est un animal inconsolable et gai ». Et jamais, en voulant définir l'homme, personne n'a trouvé deux mots plus justes pour définir Molière. Molière, dans un moule de comédie raisonnable, a écrit le théâtre le plus noir de la littérature de tous les temps. Molière a épinglé l'animal homme comme un insecte, et avec une pince délicate, il fait jouer ses réflexes. Et l'insecte homme n'en a qu'un, toujours le même, qui fait tressaillir sa maigre patte au moindre attouchement, celui de l'égoïsme. Qui donc est bon chez Molière? Qui aime? Qui donne à un autre qu'à lui? Pas de réponse à cette question. Les personnages de Molière se regardent gênés et se taisent. Seul peut-être le plus horrible d'entre eux, dont nous n'avons pas envie de rire et qui rejoint la grandeur shakespearienne, seul Don Juan, échappé un jour à Molière dans la hâte d'une improvisation et aussitôt retiré de l'affiche, est presque innocent et sympathique. Son cas, lui, relève de Dieu. Mais le cas de l'homme qui a réussi seulement à déchaîner ce rire énorme, ce rire heureux, sans grincement, ce rire innocent devant son absurdité, sa petitesse et sa laideur, de qui relève-t-il? De l'homme, son frère, qui le pèse, le jauge, éclate de rire et lui tend tout de même la main. Quelle acceptation dans ce rire viril et tendre, et quel pardon! Nous pouvons nous blesser, nous trahir, nous massacrer sous des prétextes plus ou moins nobles, nous enfler de grandeur supposée, nous sommes drôles. Pas autre chose, tout autant que nous sommes. Grâce à Molière, le vrai théâtre français est le seul où on ne dise pas la messe, mais où on rit, comme des hommes à la guerre, les pieds dans la boue, de notre misère et de notre horreur. Cette gaillardise est un des grands messages français au monde. Nous vous en remercions, monsieur.
Molière,
Votre Majesté.
Vous avez su infiniment nous plaire. Et là où les ignorants et les fats ne voient qu'illusion, artifice, fantaisie, vous avez su également nous faire voir le théâtre comme l'origine même de la vie.
Ça peut pas faire de mal.
C'était un extrait du Molière de Laurent Tirard avec la voix de Thierry Lhermitte dans le rôle de Louis XIV. Cette émission en public a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Éric Boisset, Manon Houssin, Célia Dufour et Olivier Dupré. Elle a été préparée par Estelle Gap, Périne Malinge, Leïla Corosselicois et Claire Tesser.
Toute l'équipe de Ça peut pas faire de mal vous souhaite de très belles fêtes.